Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
On est là et on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau week-end des experts. Samedi, dimanche, 6h-10h, ils sont là. Les meilleurs experts de France vous accompagnent et répondent à vos questions. Avec demain, évidemment, l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Tout à l'heure, entre 9h et 10h, un spécial YouTuber, mais pas n'importe quel YouTuber, boucher, plombier, artisan. C'est rigolo, on trouve de tout sur YouTube. Et on s'intéressera à ce phénomène en compagnie de Raphaël Grabli. La forme, la santé, ce sera avec Christian Eka, bien évidemment. Avec Christian, on évoquera énormément de sujets. Les moustiques, entre autres. Comment éviter les piqûres de moustiques cet été? Comment aussi les soulager? Et puis, on évoquera l'eau aussi. Quel type d'eau privilégier, à quelle fréquence, pendant ou après les repas, surtout en ces périodes de forte chaleur. Tout à l'heure, à la maison, avec Christian Pesson, on se rafraîchira. On parlera d'eau aussi. Avec les spas d'intérieur, les spas d'extérieur, la détente. Voilà, on vous donnera des conseils. Peut-être que vous avez envisagé de vous offrir un spa là, dans les semaines ou les mois qui viennent. Vous ne savez pas comment choisir, vous ne savez pas combien ça coûte. Comment choisir un bon installateur aussi et le bon matériel. On vous donnera un maximum de conseils avec Christian. Ce sera dans une heure, hein, entre 7h et 8h. Et pour débuter, donc, c'est le jardin. Monsieur Miu Miu, bonjour.
Bonjour Monsieur François, bonjour à tous. Vous parliez de métiers sur YouTube, il y a aussi les jardiniers.
Et il y a les jardiniers avec votre chaîne, New Jardin TV, qui cartonne, bien
dans
sûr.
Dans laquelle, mesdames, messieurs, vous pouvez découvrir la terrasse de François Sorel. Nous avons fait un reportage.
C'est vrai, avec écoutez, tout ce qu'on a pu planter sur ma terrasse. Vous êtes venu, Patrick, il y a quelques mois de cela, c'était très sympathique. Patrick, bravo pour vos bretelles ce matin, elles sont magnifiques. Oui. Petite chemise rose à manches courtes. Bretelles rouges, magnifique. Ouais, c'est très très beau. Vous êtes très très beau. Alors au menu de cette heure dédiée au jardin. Tout à l'heure, on va parler des alternatives au gazon, Patrick. Quelles plantes peuvent remplacer le gazon?
Oui, parce que si vous regardez les pelouses actuellement, notamment, je dirais en Île-de-France où il pleut pas depuis très longtemps, c'est vraiment des paillassons. Et on peut se poser la question de savoir.
Et puis c'est moche alors quand c'est pas arrosé, c'est moche.
Voilà, non, mais c'est très très laid. C'est pas agréable en plus parce que ça durcit au pied et tout ça. Donc est-ce que l'on pourrait pas mettre autre chose que du gazon?
Notre conseil, les soins à donner aux rosiers en été, ce sera dans quelques minutes. Et puis je vous rappelle, bien sûr, et ça c'est en fil rouge pour tous vos rendez-vous experts de ce week-end, le 32-16, le standard RMC, Amina vous attend pour évidemment réceptionner vos questions. Vous avez une question jardin pour Patrick Mulan? Profitez-en, que ce soit sur le gazon, que ce soit sur notre sujet aussi, les rosiers en été. 32-16, l'appli RMC, direct studio, avec votre smartphone, vous nous posez votre question, vous l'écrivez et vous nous laissez votre numéro de téléphone, un peu comme un SMS finalement. Et automatiquement, ça arrive ici en studio, on lit votre question et on peut vous rappeler dans la foulée. 32-16, donc l'appli RMC, direct studio, bienvenue à vous toutes et à vous tous, c'est parti. Et on accueille Martine pour débuter. Martine, bonjour.
Allô, oui.
Oui, Martine, bonjour.
Bonjour François, bonjour bien Patrick.
Bien bonjour chère Martine.
Je vous écoute.
Alors donc, j'ai un philodendron que j'avais pris, enfin, que j'avais reçu de ma maman. Et il était mort quand je l'avais repris chez moi. Et j'avais continué d'arroser, il avait redémarré. Et je l'ai replanté plusieurs fois et là, il commençait à dépérir. Donc j'ai voulu à nouveau le rempoter au printemps. Et puis ça s'est cassé net à 10 cm de la tige. C'était rétréci, très rétréci, et ça s'est cassé net. Alors j'aimerais bien savoir si je peux sauver la partie aérienne.
Bah, ça fait combien de temps que ça s'est cassé?
C'était au printemps, là, il y a un mois et demi.
Et si elle est cassée net, qu'est-ce que vous en avez fait de cette partie aérienne?
Bah, je l'ai mis dans l'eau.
Alors normalement... Alors, si c'est grand, c'est peut-être un peu compliqué. Il est très fréquent que le philodendron.
Ah, ça commence pas pareil, mais ça finit pareil.
Le rhodo, ça marche pas. Mais le philodendron puisse se bouturer dans l'eau.
Ah.
Donc, mais en général,
Martine a eu un bon réflexe alors.
Comment?
Martine a eu un bon réflexe.
Oui, bah déjà parce que ça lui permet de conserver la partie qui a été cassée. Alors. Comment elle se présente actuellement, cette partie qui est dans l'eau?
Cette partie dans l'eau, bah, elle n'a pas l'air de trop réagir. Et puis les feuilles commencent, il y en a plusieurs qui sont mortes hein, en bas. Et puis les autres, elles sont un petit peu flétries quand même.
Ouais, hein, donc, ça marche pas. C'est parce que, oui, mais parce qu'en fait, généralement, quand on fait une bouture dans l'eau comme ça, on ne prend que la partie extrême de la tige. Donc la partie la plus jeune, je dirais, la pousse du bout,
d'accord.
D'une, allez, 25-30 cm de longueur maximum, on enlève les feuilles du bas pour pas qu'elles trempent dans l'eau, et puis d'accord. après on attend que ça fonctionne. Alors ça marche pas à tous les coups, il y a des gens qui ont la main verte, vraiment,
ouais, enfin,
moi
bien
je
sûr,
connaissais ouais. quelqu'un qui mettait n'importe quoi dans l'eau, et ça
repartait.
Moi j'ai pas eu toujours ce genre de chance. Bon, voilà. Donc, mais vous avez quand même la partie racinaire qui est encore bonne ou pas
oui, 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 je vais continuer de l'arroser.
Oui, oui. Voilà, donc ça va redémarrer normalement. Vous l'avez déjà
oui,
fait
oui.
une fois.
Oui, c'est déjà fait une fois, oui.
Voilà,
oui,
donc, oui. Donc, en fait, l'important sur une plante, enfin, ça dépend des plantes, mais globalement sur un philodendron, l'important c'est la partie racinaire avec la souche.
D'accord.
Parce que de la
d'accord.
souche, vous avez des yeux qui peuvent se mettre à redémarrer. Alors, c'est pas toujours très rapide, mais.
Non, ça a été très long la première fois.
Oui, bien sûr. Parce que bon, en plus, les plantes, elles sont pas non plus dans des conditions absolument parfaites pour leur développement. Un philodendron, ça vit dans les atmosphères tropicales, 90% ouais. d'hygrométrie, voilà. Voilà. Mais ça devrait pouvoir redémarrer. Bon, je pense que votre bouturage dans l'eau, lui, il est un petit peu destiné à rater, surtout si c'est en train de flétrir. Parce que si tout était turgescent, là, on pourrait se dire que c'est en bonne voie. Mais dans ce cas-là, malheureusement, je crois que ça ne marchera pas.
Aïe, aïe, aïe. D'accord. Enfin, si déjà il y a une partie qui repart, c'est déjà la partie racinaire.
Oui, voilà, la partie racinaire, il n'y a pas de raison qu'elle ne redémarre pas.
D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne chance avec votre plante.
Merci, c'est très gentil.
Merci, Martine. Tiens, pour compléter la question de Martine, Patrick, on met ça dans quoi ? Dans un petit peu d'eau. Est-ce qu'il faut rajouter, par exemple, des nutriments dans l'eau pour peut-être.
Alors, on peut, c'est plutôt pas mal. Alors, dans un peu d'eau, je dirais non. Dans
beaucoup d'eau. Mal.
Alors, parce qu'en fait, quand on fait une bouture de philodendron, je vous disais, la bouture fait à peu près 30-35 cm de long. Donc, on va plonger quand même environ la moitié
d'accord.
de la tige dans l'eau. Donc, il vous faut quand même un récipient assez grand. Mm-hmm. L'idéal, c'est que ce récipient soit transparent. Pour quelle raison ? C'est que les philodendrons sont des plantes qui ont l'habitude de faire des racines aériennes. Donc, ils ont besoin d'avoir de la lumière d'accord. aussi pour développer ces racines. Après, votre question, elle est particulièrement pertinente dans la mesure où l'ajout, mais alors en quantité extrêmement légère, de substances organiques. Alors, par exemple, on pourrait utiliser du purin d'ortie, mais enfin, bon, c'est pas fait que pour ça. Mais le purin d'ortie, il est riche en minéraux, il est riche en éléments organiques. Mais par exemple, moi, ce que j'utilisais, et ça marche très, très, très bien, ce sont les engrais liquides que l'on trouve à base de vinasse de betterave, de tourteau de betterave. Enfin, c'est des engrais, on en trouve encore pas mal dans le commerce. Par exemple, le Solugène de la marque Fertiligène. Je
d'accord.
fais de la publicité aujourd'hui.
Solugène, d'accord.
C'est très sale, hein, quand vous l'utilisez. Ça tache tout ce que vous voulez, parce que c'est couleur betterave, un peu plus foncé, même un peu chocolat. Mais c'est très, très, très riche en oligo-éléments et même peut-être, je pense, en substances organiques qui favorisent vraiment les racines.
Mm-hmm.
Oui.
Bon, voilà, à tenter pour la prochaine fois.
Mais on en met très peu, on en met une dizaine de gouttes dans le récipient. Et puis, vous pouvez changer l'eau.
Régulièrement.
Parce qu'il faut pas que ça coupe.
Et bien sûr, voilà. Bien sûr. Patrick, il est 9h16, il est temps de retrouver maintenant votre conseil.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC. L'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Et un spécial soin à donner aux rosiers en été. On va parler d'arrosage, de fertilisation, de taille après floraison, des ennemis et des maladies. Patrick, peut-être pour commencer, dans quel état végétatif se trouvent les rosiers en cette période de l'année ?
C'est pour ça que je voulais vous parler de cela, parce qu'ils sont, on va dire, en transition. Alors tout dépend bien sûr du type de rosier. Les remontants classiques, c'est-à-dire des rosiers qui fleurissent plusieurs fois, eux, généralement, ils font une petite pause. Ils ont fleuri mai-juin, avec les chaleurs et la sécheresse qu'il y a actuellement, généralement, la floraison allait vraiment très très bas. Et vous avez des permanents, des perpétuels, je dirais, qui eux sont en pleine floraison. Par exemple, hier, j'ai vu un magnifique Pierre de Ronsard,
oui,
qui était complètement couvert de fleurs. Et puis, vous avez les non-remontants, les rosiers anciens, les rosiers lianes, par exemple, qui ne font qu'une seule floraison. Eh bien, ceux-là, ils ont besoin, on va dire, d'être taillés pour pouvoir se redynamiser l'année prochaine.
On voit souvent se développer en ce moment de longues pousses vigoureuses au pied des rosiers. Est-ce qu'il faut les conserver ou les tailler?
Alors, il faut regarder quand même d'où ça vient. Ces longues pousses vigoureuses, si elles partent vraiment du sol, c'est-à-dire sous le bourrelet de greffe, parce que quasiment tous les rosiers que l'on cultive aujourd'hui encore sont greffés, si ça part en dessous, c'est ce qu'on appelle un gourmand. Il y a moyen de repérer ce qu'est un gourmand à la forme et surtout au nombre de folioles. Un rosier, on va dire, hybride moderne, a en moyenne 5 folioles. C'est-à-dire il a la feuille composée de 5 petites feuilles.
Oui.
Jusqu'à 7, parfois. Mais quand vous avez cette grande tige qui porte entre 7 et 9 folioles, donc plus petite généralement, eh bien là, ça vous assure que c'est un rejet du porte-greffe. On appelle ça un gourmand. Il faut l'éliminer parce que sinon, on voit bien que sa puissance risque de prendre le pas sur la variété elle-même.
Très bien. Faut-il arroser les rosiers en ce moment? Et à quelle fréquence et en quelle quantité, Patrick?
Alors oui, les rosiers ont besoin d'eau. Alors, ils n'ont malheureusement pas de symptômes extrêmement visibles lorsqu'il manque d'eau, hormis le fait d'avoir la possibilité d'avoir des feuilles qui jaunissent. Mais dans ces cas-là, c'est vraiment un peu tard. Donc, actuellement, nous, on donne environ 10 litres d'eau par rosier tous les 3 jours, parce que la température, elle est autour de 25 degrés. Si on monte au-dessus de ces 25 degrés, et ça risque d'être le cas en partie la semaine prochaine, eh bien là, c'est tous les 2 jours qu'il va falloir donner environ 10 litres au rosier. Quand je donne cette quantité d'eau, c'est pas innocent, parce que quand vous arrosez avec un tuyau d'arrosage et puis un pistolet.
Et on ne se rend pas compte.
Il faut. Moi, je me suis fait l'expérience parce qu'à un moment donné, je me disais quand même, mes plantes, on les arrose régulièrement, puis je trouve qu'elles manquent d'eau. Et donc, j'ai pris un arrosoir de 10 litres et puis j'ai arrosé.
Et vous avez chronométré
Il faut du temps. Je n'ai pas chronométré, mais je me suis dit, du coup, je vais arroser à l'arrosoir, en fait.
Mais il n'y a pas un petit outil à la sortie d'un tuyau qui pourrait nous donner je sais pas moi, le nombre.
On pourrait demander à Christian Pessel.
De litres, de décilitres.
Personnellement, je ne connais pas. Alors, à la sortie d'un robinet, ça pourrait être possible, mais ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, le robinet, il sert à remplir un récipient. Donc, ça
oui, mais pour un jardinier qui arrose avec un tuyau, ça peut avoir du sens.
Oui, mais il faudrait que vous l'ayez à l'extrémité de votre tuyau. En plus, le débit, il est souvent inversement proportionnel à la pression. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils ont beaucoup de pression, ils arrosent beaucoup. Ben non, en général, c'est plutôt un gros flux.
Bien sûr.
Avec aussi, d'ailleurs, ça c'est important, plus votre tuyau est étroit au niveau du diamètre, plus vous augmentez la pression, mais plus vous réduisez le débit. Donc ça aussi, il faut en tenir compte.
Très bien. Alors, on voit écrit partout qu'il ne faut pas mouiller le feuillage, et vous dites souvent qu'il faut doucher les plantes partant de fortes chaleurs. On ne sait plus trop quoi faire, là. Avec les rosiers, tiens, est-ce qu'il faut arroser les rosiers quand il fait chaud?
Vous voulez me piéger, là. Vous voulez me piéger, je le sens. Eh bien, écoutez, moi, je suis contre les idées reçues. Alors, il est vrai que l'eau stagnante, et je le dis très souvent, lorsqu'elle reste un certain temps sur les feuilles, et nous allons voir le certain temps ce que ça représente, favorise ou même est l'élément moteur du développement des maladies cryptogamiques. Le temps qu'il faut pour des spores de champignons pour germer et infester la plante est à minima de 2 heures. Il faut au moins que l'eau stagne 2 heures sur le feuillage.
D'accord.
Actuellement, avec la forte chaleur, la chaleur estivale que l'on a, le rayonnement solaire que l'on a, vous avez quasiment aucun risque d'arroser et de doucher le feuillage de votre plante. En 2 heures, vous n'aurez plus une goutte d'eau. Moi, j'ai même remarqué, mais un truc de fou, en fin de journée, donc pas, il fait pas nuit encore. Il fait encore bien jour, mais en fin de journée, vous douchez un feuillage. On a par exemple des grands cornouillers qui ont les feuilles qui se ratatinent. On les douche abondamment. Là, c'est en quelques minutes que l'eau disparaît. Donc, moi, je vous conseille...
On a l'impression que même les plantes boivent cette eau, non ?
C'est pour ça qu'on leur douche le feuillage. Mmh. C'est pour ça aussi donc, que je vous conseille de faire le même pour vos rosiers quand la température a dépassé les 25 degrés. Donc, c'est ce qu'on risque d'avoir cette semaine, parce que là, vous avez besoin que la plante se réhydrate. Hier, j'étais dans les jardins familiaux avec des amis jardiniers, et ils me montraient leurs tomates en me disant « Oh, t'as vu les tomates ? Regarde l'extrémité des tiges, elles sont toutes ratatinées, et pourtant je les arrose. » Je lui dis « Oui, mais depuis plusieurs semaines, on a des vents qui sont de nord-est et qui sont extrêmement desséchants. Mmh. » Donc, l'hygrométrie, c'est-à-dire la quantité d'humidité qu'il y a dans l'air, est très faible. Donc, les plantes, effectivement, ne manquent pas d'eau au pied, mais leur feuillage se dessèche naturellement parce qu'il ne peut pas s'hydrater. Mmh. Donc, doucher les plantes. Alors, sur les tomates, ce n'est pas utile. Hein. Franchement, ce n'est pas grave que les feuilles se ratatinent. Oui, oui. Les plantes, quand elles ont de l'eau au pied, ça va très bien. Sur les rosiers, ce n'est pas la même chose.
Patrick, si mon rosier a perdu une grande partie de ses feuilles, est-ce que c'est grave et que faut-il faire ?
Alors, c'est grave, oui. Oui, en cette saison, c'est grave et généralement, c'est signe d'une attaque qui était précoce de Marsonia, la fameuse maladie des taches noires du rosier qui se développe dans le courant du printemps et pour laquelle certaines variétés sont ultra sensibles. Mmh. Vous avez des variétés anciennes qui, dès qu'il y a trois gouttes d'eau dans l'air, là, paf, ouais, sont immédiatement tachées, ouais, et puis ça entraîne en cette saison la chute importante du feuillage. Donc, il est bien évident que pour le rosier, c'est pas très très bon, oui, puisque je rappelle, la feuille est le moteur énergétique de la plante. Grâce à la lumière, elle fait sa photosynthèse. Si elle a plus de feuilles, son métabolisme il se ralentit, ou voit même il s'arrête. Donc il faut se dire que c'est pas bon pour le rosier. Malgré tout, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Déjà, ramasser tout ce qui est tombé, parce que toutes ces feuilles qui sont tombées au pied du rosier contiennent des éléments vecteurs de la propagation de la maladie. Donc le fait de les retirer, de les mettre aux déchets verts, par exemple, vous pouvez les mettre dans les déchets verts qui sont ramassés par les municipalités parce qu'ils vont les composter dans des gros composteurs qui vont monter en température.
Et là ça va détruire tous les...
En revanche, dans votre propre composteur, vous ne le faites pas. Mmh. Parce que là, vous allez continuer aussi à avoir la maladie. Donc vous faites ça, et puis vous pouvez retailler légèrement les rosiers qui ont été abîmés comme ça, bien les arroser, pailler pour conserver cette humidité, voire, une semaine après l'arrosage, mettre un petit peu d'engrais. Mmh.
Patrick, pour terminer, les pucerons, on peut en voir en ce moment sur les rosiers, c'est grave ou pas ?
Alors, il n'y en a pas énormément. Les pucerons, j'ai toujours dit que ce n'était pas quand même la peste et le choléra réunis. Il suffit de couper les tiges qui sont couvertes de pucerons. Vous jetez... dans le barbecue, vos pucerons. Ah ben ça, c'est radical.
Ah bah
ça,
oui, le barbecue, voilà, ils font moins les malins. Hein.
Vous les éliminez, après vous n'êtes pas obligé de les rôtir et de les déguster.
Hein. Non,
vous n'êtes pas obligé.
En plus, il n'y a pas grand-chose à manger,
mais bon,
si je puis me permettre.
C'est vraiment pas très très grave, mais il faut éviter qu'ils se propagent, parce que les pucerons sont quand même vecteurs de maladies à virus, alors pas pour nous, mais pour les plantes.
D'accord.
Qui, ces maladies sont dégénératives et on ne sait pas les traiter.
Très bien. Patrick, il est 6h26, on va revenir dans un instant et après le rosier, on va s'attaquer au gazon. Quelles sont les alternatives au gazon aujourd'hui, notamment par exemple dans les régions au climat sec? Alors on sait que ça demande beaucoup d'entretien et beaucoup d'arrosage pour avoir un beau gazon.
RMC,
le week-end des experts. C'est
6h-7h.
Votre jardin, François Sorel,
Patrick Mulan.
Nous voilà de retour, le week-end des experts. Et c'est le jardin, bien sûr, avec Patrick Mulan qui est là comme chaque samedi, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Si vous voulez nous joindre, n'hésitez pas, hein, on va évoquer le gazon. Vous avez une question, des questions sur le gazon. Votre gazon est raplapla, vous avez peut-être envie d'avoir des astuces pour le replanter, pour le ressemer par exemple, ou autre. N'hésitez pas, hein, 32-16, on va évoquer ce sujet tout de suite. Vous pouvez nous appeler, l'appli RMC Direct Studio aussi. À votre disposition.
L'idée, c'est de le remplacer même.
Même, et le remplacer maintenant, on va en parler. Avec les alternatives au gazon, donc, Patrick. Quelles plantes peuvent remplacer le gazon,
Tim ? Voilà, c'est le titre d'un livre formidable qui était sorti en 2011. Et on avait eu à l'époque, d'ailleurs, son auteur à l'antenne. Et ce livre ressort dans une nouvelle forme d'édition chez Actes Sud. Donc l'auteur est Olivier Philippi, c'est un pépiniériste extrêmement expert en matière de plantes qui résistent à la sécheresse. Il a fait d'ailleurs chez le même éditeur un livre aussi que je vous conseille qui s'appelle « Pour un jardin sans arrosage » qui est aussi très très intéressant et sont des livres qui sont en avance sur leur temps. Et ce gros livre, très beau livre aussi, hein, qui est particulièrement passionnant, il m'a fait dire « Bon, alors, il faut absolument qu'on reparle de ce sujet » parce qu'effectivement, il y a des alternatives au gazon. Alors, peut-être pas, et même d'ailleurs certainement pas, dans l'esprit du gazon, de la pelouse du Stade de France. Ce n'est pas fait pour faire du sport, pour avoir des terrains comme ça. Mais dans un jardin, une pelouse, ça sert à quoi ? Ça sert souvent à faire simplement le lien entre les massifs, c'est-à-dire que ça vous donne un peu de respiration avec un élément plus plat par rapport à d'autres éléments plus hauts. Et ça, vous pouvez utiliser autre chose que les graminées à gazon qui, en ce moment, comme on le disait au début de l'émission, sont d'une horreur absolue, sont vraiment, on a l'impression d'être dans un désert. Donc l'idée, c'est de se dire à quoi sert le gazon que j'ai dans mon jardin et par quoi je peux le remplacer.
Alors, les pelouses paillassons, est-ce qu'elles sont récupérables et comment ?
Alors, d'une manière générale, oui, c'est vrai que c'est extrêmement spectaculaire de voir un beau tapis vert se transformer en une espèce de chose jaunasse, filasse et moche. Dès que les pluies vont revenir en abondance, eh bien, vous verrez qu'il y a un reverdissement. N'empêche que la pelouse en elle-même, elle souffre terriblement de ce genre de traitement et elle a obligatoirement ralenti aussi son métabolisme, c'est-à-dire que toutes les petites graminées qui sont utilisées pour composer cette pelouse, eh bien elles se sont mises en dormance, on appelle ça une estivation, c'est-à-dire que d'habitude la dormance c'est l'hiver, c'est donc la vernalisation, mais là on est en estivation, mais elles vont avoir du mal quand même à redémarrer, donc on fragilise vraiment, et parfois même, une fois que l'hiver va être passé, vous verrez des taches jaunes rester dans la pelouse, et vous serez obligé de la refaire partiellement.
Alors Patrick, parmi justement ces alternatives au gazon, quelles pourraient être les espèces qui résistent bien à la chaleur, et en même temps à la sécheresse ?
Alors, vous avez eu raison de préciser à la chaleur, parce que la majorité des graminées qui peuvent bien tenir à cette chaleur et à cette sécheresse sont aussi des plantes frileuses. C'est pour ça qu'elles conviennent bien dans les régions méditerranéennes ou littorales. En revanche, c'est plus compliqué dans les régions septentrionales parce que, par exemple, si on prend le Faux-Kikuyu, le Sténotaphrum secundatum, ça a un nom un petit peu à coucher dehors. On l'appelle aussi l'herbe de Sainte-Augustine ou même l'herbe des buffles. Bon, à moins 5 degrés, la plante, elle est déjà pas très bien, mais si jamais vous avez moins 10 degrés, elle est carrément détruite.
Ah oui.
Alors, c'est une graminée assez large, assez grossière, je dirais, mais qui résiste bien au piétinement et surtout qui pousse très vite et qui ne craint surtout pas la sécheresse. Vous avez le chien dent pied de poule. Alors, on l'appelle aussi l'herbe des Bermudes, le Cynodon dactylon. Alors, ça, c'est une plante, comme tout chien dent, qui fait énormément de stolons, de rhizomes, etc. Elle est un peu vert bleuté. Bon, ça s'adapte très, très bien dans les climats chauds et secs, dans les sols pauvres, mais c'est aussi une plante qui est assez sensible au froid et puis qui a le défaut, à l'inverse du Faux-Kikuyu, de s'installer lentement. Et au départ, alors contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, cette plante qui est très résistante à la chaleur et à la sécheresse lorsqu'elle est installée,
d'accord,
au départ, elle a besoin d'être beaucoup arrosée pour pouvoir prendre sa place. Et après, bien entendu, bon, bah, ça devient plutôt envahissant et il faudra le tondre régulièrement. Puis il y a le Zoysia tenuifolia, le fameux gazon des mascareignes, qui est lui beaucoup plus fin. Il est joli, etc. Mais alors, il a du mal aussi à supporter les froids hivernaux et surtout, je dirais, l'humidité hivernale. Parce que ça, c'est la même chose. Une plante qui est naturellement résistante à la sécheresse, elle craint l'humidité. Donc, dans nos régions septentrionales, lorsqu'on a des hivers qui sont frais et en même temps humides, bah, ce type de plante ne résiste pas.
Alors, vous avez parlé du faux Kikuyu, mais pourquoi ne pas avoir mentionné le vrai Kikuyu ?
Alors, le vrai s'appelle Penicetum clandestinum. C'est une plante qui résiste très, 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 très bien à la chaleur, mais en revanche, il n'aime pas du tout la sécheresse.
Lui. D'accord, donc il faut la
regarder
régulièrement.
C'est une plante qu'on voit beaucoup dans les pays tropicaux ou même, je dirais, équatoriaux, parce que là, il fait chaud, mais humide. Mm-hmm. Donc, dans nos régions, mettons méridionales, où il fait chaud et sec, ben, ça ne sera pas terrible. Et surtout, en plus, bon. Il a tendance à s'endormir en hiver, parce que comme il est, lui, très tropical, il a l'habitude que les journées soient aussi longues que, que la nuit. Quand la nuit est très très longue, bah, ça l'endort et il devient tout moche en hiver.
Il doit craindre le froid en plus, non ?
Et il craint le froid, bien entendu.
Est-ce que l'on ne pourrait pas remplacer tout simplement le gazon par une prairie, par exemple une prairie d'herbes sauvages ?
Écoutez, c'est une des grandes idées d'Olivier Philippi dans son livre Alternative au gazon, entre autres. C'est des choses que font beaucoup de paysagistes aujourd'hui. Mais il faut faire attention parce que, bon, laisser pousser la végétation spontanée, ça ne donne pas toujours l'aspect régulier de tapis vert que l'on cherche sur une pelouse. Ça va vous donner des variations de couleurs qui peuvent être intéressantes d'ailleurs. Ça peut aussi donner des résultat inconfortable, je dirais, parce que certaines plantes spontanées sont un peu raides ou même parfois un peu épineuses. Donc, il faut faire quand même un peu attention là-dessus. Et puis, la végétation sauvage, par définition, elle est bien dans son environnement, elle se développe abondamment et ça vous nécessite souvent de tondre beaucoup plus régulièrement qu'une pelouse classique. Donc, l'idée aujourd'hui qui domine dans cet esprit-là, c'est de prendre des plantes couvre-sol, donc pas forcément tapissantes, parce que dans les couvre-sols, vous en avez des grandes aussi. Mmh. Parce que qu'est-ce qu'une plante couvre-sol ? Une plante couvre-sol, c'est une plante qui s'étale, qui va prendre de la dimension en largeur, mais qui peut aussi être haute. Alors, il y en a des très très basses, mais il y en a des grandes. Alors, c'est pour ça que je disais que l'important, c'est de savoir ce que l'on veut faire de sa pelouse, parce que si vous avez simplement besoin d'une prairie, bah vous pouvez faire ce que l'on voit de plus en plus aussi dans les espaces verts publics aujourd'hui, c'est laisser la végétation se développer plusieurs mois. Quand elle atteint une certaine hauteur, à ce moment-là seulement on va la couper. Ça a un intérêt biologique particulier parce que la multiplicité des espèces qui composent ces prairies attire les insectes, crée de la biodiversité, et donc ça, sur l'environnement, c'est quand même quelque chose de plutôt pas mal.
Patrick, justement, la question de Patrick sur Direct Studio. Comment faire si du lierre pousse dans mon gazon ?
Alors là, on est mal. Le lierre est une plante extrêmement envahissante parce que le lierre, chaque fois que sa tige entre en contact du sol, au niveau des nœuds, alors qu'est-ce qu'un nœud sur une tige ? C'est l'endroit où naît une feuille.
Oui.
Il y a toujours un petit renflement. Eh bien, à chaque endroit, la plante est capable de s'enraciner. Alors, le lierre, dans une zone ombragée, pourrait être une bonne alternative au gazon, à condition de ne pas vouloir en faire un terrain de foot, parce que ce n'est pas très pratique.
Oui, on ne peut pas piétiner le lierre.
Bah, le piétiner, non. On peut marcher dessus, parce que c'est tellement résistant.
Oui, ça tient le coup.
On peut avoir la possibilité de marcher dessus. Mmh. Mais attention, une fois que c'est parti, le lierre, on a un mal de chien à l'arrêter. Nous, on a notre voisine qui a laissé son jardin se couvrir de lierre. Elle a une pelouse de lierre, elle. Mais il y en a partout. Ça grimpe au mur, ça grimpe sur les arbres, etc. Alors, c'est vrai que les écologistes aujourd'hui considèrent que le lierre est une des plantes les plus intéressantes parce que ça fait comme ça, un feuillage persistant. Ça fait un excellent refuge pour toute la faune sauvage pendant l'hiver. En plus, la floraison du lierre est très très tardive en saison et elle est très mellifère. Donc, lorsque les fleurs des champs ont disparu et que les abeilles ont encore envie d'aller butiner parce
qu'elles se tournent vers le lierre.
Voilà, elles se tournent vers le lierre et ça, ça a un intérêt. Mais je peux vous garantir que se débarrasser du lierre une fois qu'il a envie de prendre, de conquérir, j'allais dire, un petit peu le terrain, ben ça, c'est quand même compliqué. Comme nous n'avons plus d'herbicides, je rappelle quand même, eh bien, vous êtes obligé de le faire
à
la main. À
la main, ouais. Quelles seraient, Patrick, les plantes couvre-sol piétinables et résistantes à la sécheresse, alors ?
On va aller chercher dans les thym. les thym, comme le thym que l'on consomme, qu'on met
oui,
avec le lapin.
Pas les thyms métal.
Voilà. Les thyms, le thym cilié, Thymus ciliatus, le serpilum, c'est vraiment un thym très 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 fin, etc., sont des plantes. Alors, on ne peut pas jouer au foot non plus dessus, mais on peut marcher dessus de temps en temps. Ça fait des tapis très doux, ça fait de magnifiques fleurs. Attention, au printemps, on ne marche pas non plus pieds nus dessus parce que c'est complètement envahi par les butineurs qui adorent les fleurs de thym. Mais ça ne supporte pas du tout l'humidité. Là, on est vraiment pour les sols les plus secs avec le thym. On a d'autres plantes qui sont données par Olivier Filippi dans son livre, comme une matricaire, le franquenia, le phylla, certaines potentilles aussi. D'ailleurs, tiens, la potentille rampante, qui est considérée comme une vraiment satanée mauvaise herbe, dans certains cas, elle peut remplacer le gazon parce qu'elle va vous faire une couverture du sol très homogène et qui n'est pas qu'on fait aussi mal que ça. Il y a certains trèfles, il y a aussi des achillées, Achillea odorata, par exemple, c'est très fine, mais l'Achillea millefolium, qui a aussi un, quand millefolium, vous entendez, on a l'impression que les feuilles, il y en a mille, parce qu'elles sont très, très finement découpées. Eh bien, ce sont des plantes qui sont intéressantes pour faire une sorte de couverture sur laquelle on peut marcher de temps en temps.
Patrick, on va revenir dans un instant. Il est 6h41. Nous aurons un autre Patrick. Décidément, les Patrick posent beaucoup de questions ce matin. Tant mieux. Il a depuis quelques semaines un figuier avec des feuilles qui jaunissent et il s'inquiète. A tout de suite, on est là dans une minute.
RMC,
le week-end des experts.
RMC, jusqu'à 7h.
Votre jardin, François Sorel,
Patrick Mulan.
Nous voilà de retour. Peut-être venez-vous d'arriver, tiens, sur RMC. Bienvenue. C'est le week-end des experts, c'est le jardin avec Patrick Mulan à mes côtés jusqu'à 7h. Et ensuite, ce sera Christian Pessé pour la maison avec un spécial spa d'intérieur et spa d'extérieur aussi. Voilà. Ça vous plaît ça, hein, le spa, hein, Patrick?
Oui, oui.
Moi, je vous vois bien en train de vous faire chouchouter dans un spa.
Dans la perspective de notre future maison, on va faire ça.
Un petit spa, ça serait pas mal.
Oui.
Eh oui.
Mais non, je pense que c'est bien. Parce que en été, je pense qu'on n'en a pas forcément vraiment envie. Mais en hiver,
ça c'est bien. Bah, en tout cas, tout à l'heure, si vous avez des questions particulières, vous pourrez les poser à Christian Pessé qui nous rejoindra.
Le spa de nage, ça existe?
Oui, le spa de... c'est pratique ça. Hein.
Je voudrais savoir.
Oui. La nage à contre-courant, comme ça, dans un espace assez réduit.
C'est l'entretien aussi, on se pose la question.
Et oui, bien sûr. Et puis j'imagine que ce sont des installations assez coûteuses. Oui. On verra ça tout à l'heure avec Christian. Pour l'instant, le jardin, bien sûr, se poursuit, le 32-16.
Un spa dans le jardin, j'en ai vu. Non, mais j'en ai vu.
Ça génial.
Ah oui, ça est extraordinaire.
Oui. En revanche, pour l'entretien, ça doit être embêtant, non?
Mais non, parce qu'on peut fermer tout le temps.
Ah, on peut fermer tout le temps.
Quand vous n'êtes pas dedans, vous avez des grosses couvertures qui se mettent dessus. Non, il n'y a pas de problème.
On enchaîne avec vos questions maintenant au 32-16 et on accueille Patrick. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour messieurs.
Bonjour,
bonjour. Voilà. Alors j'habite Toulon. Alors effectivement, j'ai un petit figuier que j'ai acheté il y a 2 ans pour amuser les enfants, comme on dit. C'était un petit figuier qui était dans un petit conteneur. Hein, tout était petit. Hein, de ces genres de petits conteneurs qu'on arrive à mettre à l'arrière d'une voiture. Hein, c'est pour dire qu'il n'est pas très grand. Il mesure à peu près 1m60, enfin il est un peu plus petit que moi. Là. Et depuis 15 jours, alors il a des petites figues, mais qui viennent jamais réellement à maturité. Et depuis à peu près 3 semaines, les feuilles jaunissent et tombent. Apparemment, il n'y a pas de...
Mais
de
vous maladie. L'avez transplanté en pleine terre?
Oui, en pleine terre. Voilà. Bon, c'est un trou, c'est pas un trou de fait par un professionnel, peut-être dans des dimensions terribles, ça doit être un de mes gendres qui a fait le trou comme ça.
Non, mais il n'y a pas besoin d'un professionnel pour planter une figue. en revanche, il y a toujours besoin de se poser la question de l'emplacement idéal de la plante, parce que, vous savez, les jardiniers, ou du moins les jardiniers peu habiles ou peu habitués, ont la tendance de se dire « la plante, j'ai envie qu'elle soit là ». Et on ne lui demande pas son avis. Or, la bonne réflexion, c'est d'abord de se dire, qu'est-ce qu'a besoin la plante que je vais mettre en place, au niveau écologique, c'est-à-dire au niveau de l'exposition, au niveau du sol, au niveau de l'ensoleillement, etc. Donc si on répond à tous ces critères-là et qu'on trouve l'endroit idéal, généralement on n'a strictement aucun problème avec les végétaux. Quand une plante jaunit, c'est qu'elle vous envoie un signal d'alarme de mal-être. Elle est en stress, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'est-ce qui ne va pas ? Ben, c'est la question à laquelle vous devez répondre par rapport à votre connaissance du lieu, parce que moi je ne le connais pas. Donc, un, est-ce que la plante a été plantée dans un sol qui lui convient ? Deux, est-ce qu'elle est suffisamment exposée à la lumière, parce que le figuier est une plante méditerranéenne qui aime bien le soleil. Trois, est-ce qu'il ne se trouve pas sur une circulation d'air qui fait qu'il se trouve dans un courant d'air ? Alors souvent on me dit, bah non, mais je dis, vous n'êtes jamais 24 heures sur 24 planté au même endroit pour savoir comment ça se passe vraiment, donc vous n'êtes pas dans les mêmes conditions que la plante. Donc tout ça, ce sont les questions qu'il faut se poser pour pouvoir répondre. Maintenant, il y a autre chose qu'il faut quand même savoir, c'est que quelques feuilles qui jaunissent, surtout si c'est à la base, quand c'est une plante comme un figuier qui devient un arbre, ce n'est absolument pas grave. En revanche, si ce sont les feuilles du haut qui jaunissent, là c'est plus inquiétant. Et quand ce sont uniquement les feuilles du haut, si elles ont tendance à se rétracter, à se crisper un peu, c'est souvent, encore une fois, une exposition au vent qui n'est pas totalement rédhibitoire par rapport au figuier, qui est quand même un arbre résistant, mais qui va jouer un rôle important sur la fructification.
Oui, d'accord. Ben, sur les différents plans, les éléments que vous évoquez, bon, il est dans un endroit dégagé. Il est en plein soleil. Hein. Vraiment, là, il en prend tout ce qu'il faut. Hein. Il n'y a pas d'arbre qui puisse lui faire un peu d'ombre autour. Il est un endroit tout à fait dégagé. Et la terre, c'est la terre, c'est, je pense, de l'ancienne, des anciennes vignes qu'il y avait autrefois. Par la suite, ça a été urbanisé, mais il y a de ça 100 ans, 150 ans. Une très légère pente. Je pense que c'est de la terre de vigne à l'origine.
Alors la terre de vigne, généralement, c'est quand même assez calcaire, assez alcalin.
Ouais, ouais,
ouais. Le figuier n'est pas une plante qui adore particulièrement les sols très calcaires. Donc il est possible aussi... Alors, est-ce que le jaunissement est total de la feuille ou est-ce que les nervures restent vertes ?
Non, non, il jaunit complètement.
Complètement, donc c'est pas une chlorose.
Et les feuilles tombent, voilà. Ouais. Et la feuille tombe.
Alors maintenant, vous me dites, il est totalement dégagé.
Oui, il est totalement
donc,
dégagé.
On est dans la configuration possible, et je dirais même probable, d'une plante qui est trop exposée aux vents dominants qui ne sont pas innocents dans votre région.
C'est vrai. Moi, ce que j'ai remarqué, alors voilà, ce problème que j'ai eu, là, je ne sais pas s'il s'est arrêté, mais là, depuis quelques jours, j'ai un peu, depuis quelques semaines même, j'ai laissé tranquille. Un des problèmes que j'avais, je ne savais plus si c'était trop d'arrosage, parce que bon, j'ai lu aussi, dans le même article d'ailleurs, qu'il y avait trop d'arrosage qui pouvait jaunir les feuilles.
Bien sûr, bien sûr.
Et d'autres, voilà. Et la plupart du temps, les articles disent que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'arrosage. Alors je me suis dit, bon, ben on va laisser tomber, de toute façon, il devient tout jaune. C'était les feuilles d'en bas. Hein. Il devient tout jaune, on va bien voir ce qu'il devient, parce que ça devient une bagarre. Si je l'arrose, ça va être empiré. C'était ça aussi, si vous voulez, ce trouble que j'avais de savoir si.
Oui, trop d'arrosage ou pas assez,
comment,
quoi.
Oui, c'est ça. Comment on reconnaît ?
Mon cher Patrick, quand un jardinier amateur me dit « est-ce que c'est trop d'arrosage ?», je dis « oui », parce qu'on a toujours tendance à donner trop d'eau. Alors, plus c'est vrai sur les plantes en pot que sur les plantes dans le jardin. Un figuier est une plante, encore une fois, méditerranéenne. Il est totalement adapté au climat de Toulon et vous n'avez pas forcément à l'arroser, à moins qu'on soit vraiment dans une période ultra sèche. Donc, sur les deux premières années de plantation, oui, on l'aide un petit peu pour l'arrosage, mais ensuite, c'est à lui d'aller chercher l'eau naturellement en envoyant des racines en profondeur. Donc, je pense que ne l'arrosez pas, ou du moins, ne lui donnez pas plus d'une fois par mois 10-20 litres. Vaut mieux arroser beaucoup pas trop souvent.
Patrick, merci pour votre appel. Allez Patrick, 6h52, on va terminer par notre météo du jardinier. Voilà, une nouvelle semaine qui commence. Est-ce que vous avez des infos particulières à nous donner ?
Été.
Et ben voilà.
Chaleur qui va monter, parce que lundi, même d'ailleurs demain, on va jusqu'à 35 degrés dans la région d'Avignon quand même. Hein. Mmh. Alors, on est toujours dans une vraiment séparation nette des deux régions de la France coupée en deux, comme on dit souvent, le nord et le sud. Le nord, on aura des températures relativement modestes, hein, parce que il y a des maximales demain à 17 degrés du côté des Hauts-de-France. Donc, c'est quand même relativement faible. Alors, comme je vous dis, on est jusqu'à 35 à Avignon. Donc là, il y a quand même le grand écart. Il va y avoir quand même une tendance fortement orageuse à partir de mercredi, ou même d'ailleurs à partir de mardi sur les Pyrénées, mais surtout mercredi, pluie et orage soutenus sur l'ensemble des reliefs, notamment sur les Alpes, jeudi également. Et on va monter en température en fin de en fin de semaine, avec 30 degrés à Paris vendredi, 35 aussi à Avignon et Aix-en-Provence. Donc pour le jardin, c'est surtout de l'arrosage essentiellement. Protection éventuelle, ça veut dire ombrage des plantes qui craignent le plus le soleil, mais c'est aussi la journée des barbecues, mon cher Christian Pessac qui vient d'arriver dans le studio.
Mais oui.
Donc voilà, barbecue, spa, puisque vous allez parler du spa. On sera vraiment dans cette acception.
Bon, on va pas faire le spa dans le barbecue quand
ni
même.
L'inverse.
Voilà.
Ni l'inverse.
L'inverse, c'est plus compliqué.
Ah. Bon. Un petit coup de cœur, juste pour terminer. Avec un livre assez sympa, très 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 original, de Raphaël Bernard Bacou, qui s'appelle Jardinier des villes, qui est donc un livre que j'ai beaucoup aimé parce que je m'y attendais pas. En fait, c'est un livre qui est un peu fourre-tout comme ça quand on regarde, mais en fait, elle a rencontré des jardiniers et sur le vif, elle a croqué tout ce qu'elle voyait autour d'elle. Elle a fait comme une sorte de petite BD et en même temps, elle raconte l'histoire de ces jardiniers. Alors, c'est assez anecdotique, mais au final, il y a pas mal de petites choses et puis c'est joliment dessiné. Donc, c'est chez Rue de l'Échiquier.
Ah oui.
Et ça s'appelle Jardinier des villes de Raphaël Bernard Bacot. Ça peut faire passer un bon petit moment pendant l'été à feuilleter. Parce que j'aime bien, vous savez, les livres sur lesquels vous pouvez vous arrêter sur une double page. Et puis après, vous le lâchez. Et puis vous revenez et vous avez toujours une présence. Alors que vous n'êtes pas obligé de suivre une histoire qui n'en finit pas. Voilà.
Très bien. Patrick, on se retrouve la semaine prochaine.
Tout à fait, les jardinières. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine, ma petite jardinière et ma petite perle aussi. Et salut, monsieur Cricri la bricole.
Salut, monsieur Mieux.
Juste Cricri la bricole. C'est un moment, hein,
ça. Oui, ça. C'est très ancien.
Je ne sais pas s'il dit ça avec beaucoup d'affection. Non ?
Oh, oui, quand même. On se connaît depuis
toutes ces années.
Suffisamment longtemps. On a travaillé ensemble à plusieurs reprises.
C'est vrai.
Dans différents cas.
Vous savez que la semaine prochaine, on se retrouvera dans un mode un peu particulier puisque ce sera le Grand Rush. Hein. Donc vous serez là. Il y aura tous les experts de votre week-end. Mais avec évidemment beaucoup d'infos et beaucoup de conseils sur la route, hein, puisque ce sera le Grand Rush. Patrick, à la semaine prochaine. Et dans un instant, donc Christian, on va parler de spa, entre autres. Hein.
On va parler de spa, on va parler aussi de pergola, c'est quelque chose dont on parle pas souvent. Et justement, là, il y a un lien direct avec Miu Miu, puisqu'on fait pousser des plantes grimpantes sur les pergolas.
RMC, le week-end des experts.